Il est 8h18, Nico Sadiagas.
Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, et votre invité, Audrey Crespo-Mara. Bonjour.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Jérôme Rodriguez, un proche d'Éric Drouet, a été gravement blessé à l'œil ce week-end. Une enquête est en cours, mais depuis le début du mouvement, une centaine de manifestants ont été gravement blessés par des grenades de désencerclement ou par des LBD. N'est-il pas temps de revoir les moyens de maintien de l'ordre ?
Écoutez, d'abord, Christophe Castaner et Laurent Nunez sont bien exprimés sur ces questions en disant bien que l'objectif, c'est toujours une réaction proportionnée. Je crois que les réactions de la police depuis des semaines, où elle est tellement sollicitée, tellement agressée aussi, sont la plupart du temps proportionnées.
Mais on compte une centaine de blessés graves.
Oui, bien sûr, mais sur des dizaines de milliers d'actions, si vous voulez. Bien sûr, et c'est très très regrettable, bien entendu. Et je rappelle qu'à chaque fois, il y a une enquête de l'IGPN, ce qui est le cas là. Donc on est dans une grande démocratie avec des forces de l'ordre républicaines, mais le mieux ce serait surtout qu'on arrête de les agresser.
En réaction à la blessure de Rodriguez, Jean-Luc Mélenchon réclame la démission de Christophe Castaner. Marine Le Pen l'a demandé avant lui. Craignez-vous un rapprochement entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ?
Je ne le crains pas, je le constate. Et je pense que c'est grave, que ça fait maintenant un certain temps qu'on voit une dérive des deux côtés d'ailleurs. Chacun perd ses fondamentaux d'une certaine façon, et tout simplement parce qu'ils ont la même idée de la démocratie peut-être, et c'est ça qui est grave, parce que ce sont par ailleurs des élus parlementaires. Donc il est temps que chacun reprenne un peu ses esprits, et dans une république qui est aussi une démocratie, en appeler à des formes insurrectionnelles, c'est quelque chose de grave. C'est d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon qui dérive le plus sur ce point.
Suite à la blessure de Rodriguez, Éric Drouet appelle les Gilets jaunes à un soulèvement. Il avait déjà lancé un appel à investir l'Élysée. Aujourd'hui, il appelle à l'insurrection. Peut-on appeler à renverser le gouvernement par la violence sans tomber sous le coup de la loi ?
Non, c'est totalement honteux. Ça tombe probablement sous la coupe de la loi. Ce n'est pas à moi de le dire ce matin, mais ça doit être étudié, certainement. Nous sommes dans une république, une démocratie. Chacun doit comprendre qu'être français aujourd'hui au XXIe siècle, avec tous les droits que l'on a, mais aussi les devoirs, c'est une chance formidable, une chance exceptionnelle, et que les gens comme lui, et qui en appellent à l'insurrection, sont de dangereux personnages. Il faut évidemment condamner cela, ce que je fais maintenant, mais il faut aussi regarder la dimension juridique de ce problème.
Jean-Michel Blanquer, comme beaucoup de ministres, vous vous frottez au grand débat national. Emmanuel Macron affirme qu'il tirera des conséquences profondes du débat. Que faut-il entendre par « profonde » ?
Il a dit quelque chose de très profond et de très vrai, de philosophique en réalité. Il a dit quelque chose d'hégélien en Égypte. Et c'est parce qu'il a dit que quelque chose qui est très vrai, c'est-à-dire nous sommes dans un mouvement historique, dans une étape de l'histoire extrêmement profonde, qui se voit dans d'autres pays. La France est touchée comme tous les pays, et c'est précisément pour ces raisons qu'il a été élu président de la République. Il est tout à fait normal qu'à l'occasion de la crise que nous venons de traverser, nous cherchions à sortir de cette crise profonde en faisant de la France justement le pays qui sait inventer le modèle économique et social du futur.
Donc, conséquences profondes d'un débat, ça signifie quoi concrètement ?
Par exemple,
revenir sur les 80 km/h.
Écoutez, ce sujet-là est important.
On vient
de parler de mouvement profond de l'histoire, je ne suis pas sûr que ce soit les 80 km/h qui soit le principal sujet. Là, lorsque par exemple il déclare, il y a deux semaines, c'est passé un peu inaperçu, que l'économie du futur doit reposer fortement sur les piliers que sont l'éducation et la santé, en ayant donc une vision économique et sociale de ce sujet, voilà typiquement quelque chose qui relève de nouveaux modes de fonctionnement de notre société. Lorsqu'on réfléchit à la façon dont on va avoir une justice territoriale dans le futur, avec peut-être la recherche de modalités du lien social, de vie associative, d'organisation différente du temps, voilà des évolutions profondes de la société et qui nous permettraient de profiter plus de notre pays tel qu'il est, avec ses atouts incroyables.
Bon, ça reste encore flou sur...
Oui. Les évolutions profondes, c'est soit on égrène des mesures, soit on réfléchit profondément à ce qu'est un pays au XXIe siècle. Donc c'est ce que je vous dis. Maintenant, si on peut regarder ce que ça veut dire concrètement. Par exemple, en tant que ministre de la vie associative que je suis aussi, j'ai des idées de budget participatif à l'échelle départementale pour avoir plus de moyens pour des actions d'intérêt général auxquelles les citoyens participent.
Jean-Michel Blanquer, alors que tout le week-end, les réseaux sociaux se sont déchaînés contre Bilal Hassani, qui va représenter la France à l'Eurovision, vous lancez ce matin une grande campagne contre l'homophobie et la transphobie à l'école. Alors à l'école, des petits garçons, comme celui que nous allons entendre, sont insultés, harcelés. Extrait d'un témoignage recueilli par Virginie Salmen.
Ils me disaient ça me fait des tout. Ils me disaient t'aimes les hommes et toi. Et moi quand ils disent ça, j'ai envie de les frapper. J'ai presque envie de les tuer.
Bouleversant, évidemment. Il existe des chiffres qui témoignent d'une recrudescence de ce type de comportement à l'école, non ?
Oui, malheureusement. Depuis le mois de septembre, d'ailleurs, on a observé une certaine recrudescence de ces actions. Moi, je pense à ce petit garçon et à des milliers d'élèves, garçons ou filles, qui peuvent vivre cela. Et c'est pour ça qu'on fait cette campagne.
SOS Homophobie parle d'une hausse de 38% des signalements en 2017. Confirmé.
Oui, c'est effectivement des chiffres que nous partageons avec les associations. Ça dit quelque chose de la violence de notre société. Les sujets ne sont pas déconnectés entre eux. Vous savez, quand on a du mal à se parler, quand on ne respecte pas autrui, évidemment transfuse sur les enfants. Or, lutter contre l'homophobie ou la transphobie, c'est évidemment lutter pour les valeurs de la République, pour lutter pour le droit à la différence, le fait qu'on doit accepter chacun comme il est et permettre à chacun son épanouissement. C'est une sorte d'évidence et c'est l'école qui est le premier lieu, avec la famille, où on doit dire ces évidences.
Pourquoi...
Et donc, nous les disons et on va les dire avec une grande force.
Pourquoi avoir choisi un lycée professionnel du 19e arrondissement de Paris pour présenter cette campagne ? L'homophobie est-elle plus présente dans les lycées techniques des quartiers populaires ?
Je ne dirais pas ça, non. Et d'autant plus que notre action, elle vaut aussi pour les âges qui précèdent. Donc, il se trouve que je vais souvent en lycée professionnel en ce moment et que j'y accorde une grande importance. Donc, c'est le seul message de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas de problème spécifique au lycée professionnel pour l'homophobie.
Et lutte contre l'homophobie et la transphobie, est-ce que le sujet sera abordé auprès des plus petits dans les écoles primaires ?
Oui, chaque âge doit avoir des messages spécifiques, si vous voulez. Il ne s'agit pas de se tromper de messages selon les âges. À l'école primaire, c'est surtout le respect d'autrui sur lequel on doit insister. Vous savez, je dis toujours lire, écrire, compter et respecter autrui. Respecter autrui, c'est quelque chose qui s'apprend dès la maternelle par des choses assez simples. L'esprit d'équipe en particulier, l'acceptation de l'autre dans toutes ses différences, c'est ces choses-là que l'on comprend quand on est petit, en fait. C'est très important de le faire passer. Et puis progressivement, c'est des messages de plus en plus nets qui doivent arriver, et notamment à l'âge du collège, parce que c'est à ce moment-là que l'on voit effectivement ce type de discrimination apparaître, l'humour stupide, les choses
les, il y a ce qu'on entend à la maison
mal,
aussi,
etc.
Qui joue un rôle fondamental.
Bien sûr, nous avons évidemment au collège le reflet de choses qui se disent à la maison. Donc quand vous avez des obscurantismes qui progressent, quand vous avez des pensées anti-lumière, anti-progrès dans la société, ça se reflète à l'école et l'école doit évidemment être en première ligne pour lutter contre ça et renverser la logique. Moi, mon but, c'est que si vous voulez, dans une cour de récréation, on n'est pas le jeune isolé qui se fait harceler par tous les autres, mais que ce soit celui qui a une pensée et un discours homophobe stupide qui se sente, lui, honteux. Et c'est ce qu'on va arriver à faire, parce qu'on va s'en donner les moyens.
Quand vous parlez de pensée obscurantiste, vous pensez à quoi précisément ?
Bah, bien entendu, on peut penser au fondamentalisme religieux, on peut penser aussi plus généralement au fait que progresse dans notre société le complotisme, encore une fois, des pensées obscurantistes, c'est-à-dire des pensées opposées à la pensée des Lumières, qui estiment que c'est la raison du plus fort et la meilleure, par exemple, alors que nous défendons l'idée qu'on doit défendre chacun.
Et quand les réseaux sociaux se déchaînent tout le week-end contre Bilal Hassani, je le disais, qui va représenter la France à l'Eurovision, pas moins de 1500 insultes homophobes, que pouvez-vous faire, vous ?
D'abord, restez très serein par rapport à tout cela. Vous savez, on peut lister toutes les bêtises qui sont sur les réseaux sociaux, ça n'est pas le reflet de ce qu'est réellement la société. Nous vivons maintenant avec des prismes cognitifs, c'est-à-dire nous subissons des pluies d'informations par les chaînes d'information, par les réseaux sociaux, et ça finit par nous donner une perception du monde nerveuse. Moi, j'essaye de lutter contre cette nervosité tout en disant les choses. Il faut dire les choses, être très clair et très calme. Et donc, c'est l'attitude que l'on doit avoir. Donc, c'est vraiment très malheureux de voir ce que vous venez de dire. Évidemment, je condamne. Mais en même temps, je veux dire que l'immense majorité des gens ne sont pas comme ça.
Merci Jean-Michel Blanquer.
Merci à vous.
J'aime bien le prisme cognitif.
Évidemment, on a parlé des gueules aussi ce matin.
Il manquait plus que Socrate.
Hein. Ouais.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale. Tous les jours à 8h15. Merci.